de personnes du service archives et documentation Sardo de la SNCF, donc la directrice de ce service, Agnès Dangio-Barros, et Sherifa Beniken, qui dirige une partie, enfin une composante de ce service, qui est donc le service, voilà, donc la partie service public du Centre national des archives historiques. Donc il faut savoir qu'il y a trois parties dans le Sardo. Il va y avoir donc au Mans les archives historiques, à Béziers les archives du personnel et aussi à Saint-Denis une médiathèque. Donc l'intervention va concerner donc les jardins de la société, enfin de la société SNCF qui date de 1937 et des compagnies antérieures, et aussi des guerres fleuries.
Je vais utiliser celui-là. Il est peut-être plus adapté. Bon, vous me direz. Bonjour, donc je suis Agnès Dangio-Barros et Sherifa va m'aider. On va essayer de peut-être pas parler à deux voix, mais au moins de se coordonner par rapport au défilé des images. Qu'est-ce que vous voulez je remercie la société de nous avoir invités aujourd'hui pour vous présenter des sources qui ne viennent pas forcément à l'esprit quand on parle de jardin. Donc c'est ce qui concerne plus particulièrement les gares fleuries et les jardins cheminots, puisque nous devions passer après, enfin on devait avoir une transition avec les jardins avec la présentation précédente, il me semble. Le groupe SNCF a un service d'archives qui s'appelle Service Archives Documentation, qui conserve les archives du groupe depuis le temps des compagnies ferroviaires. Une partie des archives des compagnies est aux Archives nationales à Roubaix. Mais lorsque la SNCF a été créée en 1938, suite à la nationalisation de l'exploitation ferroviaire, l'entreprise a récupéré les archives qui étaient tous les dossiers qui servaient à l'exploitation des lignes, au fonctionnement du groupe, aux sources, enfin la gestion du personnel, etc. Donc, ce qui explique que nous avons un fonds qui remonte pour l'essentiel aux années 1870-80, et la partie antérieure étant donc aux Archives nationales à Roubaix. Alors, nous avons trois sites ou trois entités qui sont ouvertes au public externe, donc les archives de Béziers qui comprennent les dossiers de carrière et de pension des cheminots, dont beaucoup ont eu des jardins. La médiathèque qui donc concerne des collections audiovisuelles qui est à Saint-Denis, mais nous ne parlerons pas des collections de la médiathèque aujourd'hui. Et donc le centre le plus gros qui est le centre des archives au Mans qui comprend toutes les archives historiques que nous pouvons détenir à part les dossiers de carrière et de pension qui sont à Béziers. Donc c'est sur ce fond-là que nous allons nous concentrer. Excusez-moi, c'est un peu... On va y arriver à deux, c'est la complexité de parler à deux. Alors, donc, ces archives, donc, très brièvement, comprennent aussi bien, touchent les conseils d'administration, les directions, tout le fonctionnement habituel, finances, personnel, etc. Les archives spécifiques à l'exploitation ferroviaire, que ce soit l'équipement, voies et bâtiments, matériel, aussi bien donc, des anciennes compagnies jusqu'en 38, comme je disais tout à l'heure, que depuis. Une collection importante aussi des textes réglementaires, parce que l'entreprise tourne beaucoup avec des textes de référence, des textes de prescription, comme on dit en interne. Et donc Le Mans a une collection depuis que ça existe, donc la création de la SNCF, quasiment. Une collection d'affiches commerciales et de brochures touristiques. Bien sûr, toute une série d'annuaires et d'organigrammes qui permet de retrouver les agents aussi, dont nous avons les dossiers de carrière à Béziers. Des plans de matériel roulant, d'ouvrages d'art, de gare, des plaques de verre, on va le voir, des photographies, des cartes postales, et puis des objets, des blasons de locomotives, enfin on a grande variété. Alors, un petit clin d'œil, donc, quand je parlais d'affiches, quelques affiches qui illustrent une qui date, enfin qui est de l'époque des chemins de fer de l'Ouest et de Brighton, donc en 1895. Donc vous voyez un petit clin d'œil aux activités horticoles. Et puis celle de droite qui est une affiche SNCF de 1979 pour les fruits et légumes. Voilà, bon, ça c'était une petite mise en bouche. Alors, donc nous allons suivre. Nous allons vous parler d'abord du jardin des jardins dans les gares, puis des jardins des cheminots. Alors, donc, d'abord, pour les jardins dans les gares, nous avons, comme nous avons fait les recherches, quand nous avons fait les recherches, donc nous avions prévu de parler des gares fleuries, des jardins cheminots, mais nous avons trouvé quelques beaux plans, enfin plusieurs, mais il fallait faire un petit choix, pour vous montrer, agrémenter l'iconographie sur le sujet. Donc on en a retenu deux. La première, c'est ce qui a trait à la gare du Mont d'Or, à la station. Vous voyez bien, voilà. Donc ce sont des plans. La numérisation, si on a une illustration à faire, on en donnera une plus explicite, mais vous voyez, donc c'est des plans qui se recoupent, hein, l'une, c'est un plan d'ensemble, et l'autre avec le détail. Moi je les vois mal, en tout cas, en fait ça se voit bien, mais il y a effectivement, vous avez l'habitude, avec les espèces qui sont plantées. Donc il y a des rosiers, parce que je crois que vous ne le voyez pas. C'est le type de document qu'on a. On a aussi des devis. On a effectivement soit des devis, puisque les compagnies, évidemment, comme toujours comme tout le monde, quand il y a des prestations de ce genre, demande évidemment des devis à des entrepreneurs, et puis après, avec celui qui était retenu, passer des marchés. Donc là, ce qui était précédemment montré, c'était une lettre de marché pour la gare, et là, là aussi, comme on a choisi un document en tête, très joli, donc un bon de commande, comme il y en a eu tant, pour auprès de Vaissey à Royal-les-Bains, pour fleurir la gare. Alors, deuxième exemple de type de document, là, c'est sur la gare d'Avignon en 1924, où il y a là aussi des plans, et puis, du même genre. Hein. Et puis, on a mis l'ensemble, les trois pages du détail estimatif, puisqu'il détaillait toutes les espèces. Et là, c'est plutôt, on voit mieux sur l'autre. Voilà. Là, je pense que c'est clair, vous voyez bien ? Oui ? Les compagnies, donc les chemins de fer, se sont beaucoup développés entre 1850 et 1900. Et là, on en évoquait un certain nombre d'actions qui ont été menées dans les années 1900. C'est en 1909 que le Touring Club de France a lancé une initiative pour embellir les villes et les villages de France avec le concours des villages coquets créé pour les villes et les villages, ainsi qu'un concours pour les gares fleuries. Alors, le Touring Club de France avait été créé en 1890 pour développer le tourisme sous toutes ses formes, soit pour les facilités qu'elle donnait aux adhérents ou la conservation de tout ce qui constitue l'intérêt pittoresque ou artistique des voyages. Et donc il était dans sa même vocation, en favorisant l'embellissement des gares fréquentées par un très grand nombre de touristes français, mais aussi étrangers. Parce que ce concours des gares fleuries, ça consistait à inciter les chefs de gare et responsables du réseau, donc à l'époque c'était les compagnies, puisqu'on est en 1909, à mieux accueillir le nouveau public que constituaient les touristes, dans des gares mieux aménagées, tant au niveau de l'hygiène que des espaces d'accueil. Et suite à ces concours, des diplômes et des médailles étaient remis aux lauréats. Donc on vous a sélectionné 8 photos qui montrent des exemples. Alors là, Alors, ce sont donc là des albums photographiques de la compagnie du Paris-Orléans Midi dans les années 1930. Et donc elles sont en noir et blanc et sont dans diverses gardes. On est en 1938 même, plus précisément. Donc là, on a montré un exemple de ce qui pouvait se faire autour des passages à niveau. Alors, ça pouvait être les chefs de gare, mais aussi les gardes barrières qui fleurissaient, étant que c'est le jardin ou les espaces verts aux alentours. Donc là, on a autour des passages à niveau, donc divers types de massifs. Je ne connais rien à l'horticulture, donc je ne ferai pas de commentaires sur même ça s'appelle un parterre ou autre. Je vous laisse, je m'abstiens. Il y avait aussi, bien sûr, donc autour des bâtiments voyageurs, même là, un exemple, des gares sur les murs, entre les diverses portes. Et puis, on avait aussi des exemples sur les quais. Alors, la dernière photo, ce n'est peut-être pas le plus sublime en termes de jardinage, mais on l'a retenue parce qu'il y avait une cloche, on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, donc il y avait beaucoup d'éléments ferroviaires. Comme on parle du train, parce que ce n'est pas toujours, on voit des passages à niveau, des lignes, mais là, celui-là, il est assez, assez particulier. Alors le concours, le concours des gares fleuries, donc créé en 1909, a été ensuite régulièrement organisé de 1959 à 1972 en partenariat avec la SNCF, et puis dans les années 90 avec le soutien du Jardin du Cheminot, dont je vais parler dans quelques temps. Et de nos jours, les gares sont toujours des sites qui profitent d'une attention toute particulière. En tout cas dans certaines d'entre elles, pour l'aménagement des paysages et des fleurs. Alors, mes notes. Alors, pour notre dernière partie. Alors, pour les jardins des cheminots, nous présentons deux aspects. L'attribution des jardins par les compagnies ferroviaires puis par la SNCF, parce que elles avaient effectivement un rôle dans l'affaire. Et puis après, nous parlerons de l'association du Jardin du Cheminot. Alors, commentaire qui a sauté. Oui, non, c'est celui-là. La compagnie, donc pour des raisons que je ne révoquerai pas, puisqu'elles ont été évoquées, c'était toujours les mêmes problématiques, hein, celles qui ont été évoquées dans la présentation précédente. Donc les compagnies favorisaient l'attribution de jardins. Quand il y avait un enfant, c'était un jardin. Le jardin était gratuit. Et quand il n'y avait pas d'enfant, ou que les enfants étaient grands, qu'il y avait attribution d'un jardin, c'était moyennant un loyer. Autant des compagnies, ces attributions de jardins potagers se faisaient, je vous parlais des textes de référence tout à l'heure, des textes de prescription, il y avait un équivalent dans des compagnies qui étaient des ordres de direction, soit nationaux, soit locaux. Et donc, on a un ensemble de textes réglementaires qui indiquent dans quelles conditions, au fil des années, au fil du changement ou pas de politique des compagnies puis de SNCF, ces jardins étaient attribués. Donc, par exemple, on a dans un document qu'on a retrouvé mais qu'on ne vous montre pas là, la compagnie de l'Ouest, je cite une note, les terrains inutilisés peuvent être concédés gratuitement à usage de jardin aux agents dont le traitement est peu élevé ou loués moyennant un prix modique si des emplacements restent disponibles après que les demandes présentées par les agents ayant droit à la gratuité auront été satisfaites. Au sud-est, pour la même période, donc aux années 30 là certainement, c'était l'origine de l'attribution des terrains à usage de jardin et à des agents de l'ancienne compagnie PLM, non, des documents SNCF, ont remonté, étaient très anciennes, et la région SNCF attribuait des terrains qu'elle appelait, dans la région est, sud-est, les terrains hors ligne, qui faisaient entre 150 et 200 mètres carrés. Donc, en plus, la SNCF a hérité de traditions différentes des compagnies et a dû aussi élaborer donc ces textes de prescription. Donc là, on donne un exemple, une couverture. Non. Ouais. où là il est écrit, donc c'était un texte de prescription qui s'appelait PS13 et qui a été abrogé en 1995. Hein, c'est la mention qui est, que vous voyez de façon manuscrite, donc il a été appliqué pendant un certain nombre d'années sur la concession des jardins et terrains de culture potagère. Aujourd'hui, il existe encore des subventions, mais ce sont des dispositions qui sont portées par d'autres textes moins spécifiques. Alors que là, voilà, ça avait une telle importance qu'il y avait un texte de prescription dédié à ce sujet. Et c'était donc, ça montrait l'importance pendant un certain nombre de décennies. Alors, le dernier point, donc l'association du Jardin du Cheminot. Alors, ben, on parlait des associations, hein, la loi 1901. Dès 1902, il y a une association de cheminots appelée la Santé de la Famille qui a été créée pour lutter contre l'alcoolisme, je cite, l'alcoolisme, le taudis, la mauvaise hygiène, principaux facteurs de la tuberculose, et pour l'encouragement au sport, la création de jardins ouvriers pour donner le goût du plein air. Alors, en raison du développement des prix par la culture des jardins dans les emprises des chemins de fer, le conseil d'administration de la Santé de la Famille a approuvé en novembre 1929 les statuts d'une section agricole qui a été déclarée à la préfecture de police en 1931 et qui se situait rue de Londres, à Paris. Et l'extension considérable encore de l'activité de cette section agricole, du fait de la répartition et de l'emploi des subventions de l'État, a décidé son bureau à créer un organisme autonome et a déposé le 11 septembre 1942 à la préfecture de police les statuts de l'association appelée le Jardin du Cheminot, Centre national de jardins ouvriers. Donc là, on vous a montré la première page des statuts, parce que ce qui était intéressant, c'était de voir la photo de la médaille avec la personne en train de prendre soin ou de planter. Je vous laisse interpréter, donc en tout cas en train de jardiner et de veiller à le faire avec soin. Et puis à côté, on vous a présenté l'évolution du règlement intérieur de l'association, pour vous montrer que bien dedans, à l'intérieur, vous voyez le sigle SNCF et suivez les évolutions du sigle au fil du temps. Voilà, c'était un clin d'œil, évidemment. Alors, cette association qui compte 55 000 adhérents, on l'a vérifié très récemment. donc, nous avons, évidemment, comme elle était en liaison... En liaison avec la SNCF, il est logique que nous ayons récupéré des dossiers qui concernent au moins les relations de la SNCF avec elle, et donc aussi des documents qui la concernent tout court. Donc nous avons mis un échantillon. Par exemple, là vous voyez un bilan des effectifs. Dans les années 90, mais on n'a pas pu le dater exactement, avec donc son but et ses moyens. Je ne ferai pas la relecture, vous voyez en plus mieux que je ne vois moi. On a aussi des exemplaires du jardin du cheminot, hein, donc organe de liaison et de vulgarisation horticole. Et là-dedans, nous avons trouvé un petit exemple. Alors là, c'est un montage de notre part. Hein, ça n'est pas... Je vous rassure, le journal n'est pas présenté en H. C'est en fait c'était sur deux pages, donc pour la clarté de l'exposé, on a fait un montage où en fait, nous, voilà, on voit que l'association propose. Alors je dois proposer là au moment en tout cas de la publication de ce numéro-là. Donc c'est en 1964, celui-là. Limiter les demandes de sachets. À 10 par variété, à 200 sachets pour une famille, avec donc voilà, des possibilités de les commander, avec la liste qui était proposée, et un engagement d'honneur, voilà, que vous pouvez lire. Donc c'était un cas un peu concret du fonctionnement entre la liaison entre l'association et ses membres. Et puis un autre exemple de ce qu'on pouvait trouver dans le jardin du cheminot. Voilà un exemple sur un tableau d'assolement au potager familial que là aussi je m'abstiendrai de commenter pour la raison que je vous ai dite. Et puis, pour finir, bon, alors un petit clin d'œil, la vie du rail avait consacré il y a quelques années, maintenant au 90, oui, alors il y a plus que quelques années, j'ai presque 30 ans, un numéro spécial aux cheminots à leur jardin. Donc là aussi, on a fait un montage, et puis bon, il y avait un clin d'œil avec le titre, et puis ça montrait une photo en couleur, parce qu'on vous en a pas beaucoup montré. Et puis pour finir, un autre clin d'œil aussi, je suis contente qu'on ait vu comment était la salle dans la société il y a plusieurs années, parce que nous avons retrouvé, bon, on ne vous l'a pas montré, que dans les années 20, nous avons une collection de plaques de verre sur une exposition de travaux d'apprentis de la compagnie du Paris-Orléans dans les locaux du 84 rue de Grenelle. Mais comme ça n'avait pas de lien, le seul lien avec l'horticulture, c'était le lieu d'accueil, mais il n'y avait évidemment rien, il n'y avait pas de thème de jardin dessus. Et puis on a vu tout à l'heure aussi les concours, une des photos du concours de 1900, enfin je ne sais pas si c'était de 1909, mais en tout cas des concours pour jardin ouvrier fait à partir de 1909. Et chère femme indiquait que les cheminots y avaient participé aussi, mais pas plus tard, mais voilà. Mais effectivement, là encore, on a réagi d'après les derniers propos tenus. Voilà, ce panorama des sources que nous pouvons avoir sur certaines... Il y a d'autres thèmes, mais le temps était limité, donc on a fait un focus là-dessus. Voilà, merci pour votre attention.
On va faire tourner.
Marie-Hélène Bentière, ministère de la Culture. J'aimerais savoir si vous avez un catalogue numérique et si certains documents peuvent être consultés en ligne, ou est-ce qu'il faut vraiment aller au Mans pour les voir ?
Nous n'avons pas de catalogue en ligne. Nous avons sur le site internet de sncf.com plus de 2000 documents qui ont été numérisés, mais qui sont des exemples de ce que nous pouvons avoir. Donc je ne sais pas si nous avons certainement une photo de jardin. La gare Fleury, il vient de y en avoir une, parce que la médiathèque, alors ça c'est qui doit venir de la médiathèque sans doute d'ailleurs, plutôt. Mais nous n'avons pas de catalogue en ligne. Par contre, ce que nous pouvons faire dans le cadre de la publication, c'est d'indiquer au moins les sources que nous avons trouvées, qui sont indexées dans notre base de données, avec la mention jardin, horticulture, enfin tout ce qui peut tourner, potager ou autre, ça nous pouvons au moins indiquer. Après, nous souhaitons développer progressivement des numérisations et les mettre en ligne. Ce n'est pas trop de notes. Nous, c'est nous ce que nous souhaitons, mais voilà, il faut après voir ce qui sera possible à partir de 2019 sur le site de SNCF. On peut envisager. Bon, ce ne sont pas des gros dossiers que nous avons sur les sujets qui vous intéressent. C'est le gros pour nous, c'est les constructions et exploitation de lignes ferroviaires et de gares, et les constructions de gares. Hein, c'est ça qui est. Voilà. Alors, des fois, on a des plans où on voit des jardins, où on voit des plantes, mais ce n'est pas forcément la majorité. Par exemple, on voulait vous citer aussi les cités jardins. Et en fait, on avait très peu d'illustrations. Et bon, comme on a essayé de mélanger l'iconographie pour varier, on avait très très peu. Enfin, c'était beaucoup moins chatoyant que ce qu'on a pu vous montrer tout à l'heure. Donc non, on n'a pas de source en ligne. On aimerait le développer. Mais après, donc oui, il faut aller au Mans. Après, ça dépend ce que vous cherchez, ce qu'on a aussi. Parce que s'il y a trois documents qui vous intéressent, on ne vous fait pas faire le déplacement quand même. Voilà. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on trouve. Par contre, s'il y a 30 boîtes sur votre sujet, là, oui, il faut se déplacer. Voilà. En tout cas, pour le moment. Voilà.
Ah. Un micro pour deux. que de civilité. Merci. Donc Serge Lamarre, donc qui fait partie de l'association Le Jardin du Cheminot, donc qui vous remercie d'avoir présenté l'association, qui a évolué, qui s'appelle maintenant Jardineau, puisque nous sommes ouverts à tous depuis une dizaine d'années maintenant, hein, compte tenu de l'évolution de la SNCF et de son personnel, nous avions besoin de nous ouvrir à l'extérieur. Donc, enfin, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, puisque j'interviens après là, après la pause. Voilà. Donc, merci à vous, et puis, effectivement, on en reparlera.
30 secondes, je vais pas sévir longtemps. Je crois qu'il sera intéressant de regarder un autre aspect de la politique de soutien des compagnies de chemin de fer, et notamment quand elles ont été unifiées par rapport au jardinage, pour une raison qui est toute simple, qui est que l'horticulture et ses produits, tout comme l'agriculture, est représenté un certain nombre de parts de marché du transport ferroviaire et qu'on trouve trace de nombreuses négociations tarifaires au 19e à travers les périodiques de la SNHF notamment, où en permanence on renégocie le prix en fonction du poids des transports, etc. Il y avait, alors à titre un seul exemple qui est tout à fait anecdotique si on veut, en la saison il y avait chaque jour 3 trains bondés de fleurs de violette qui partaient en direction de l'Angleterre. On a également des éléments importants concernant la production des roses dans le département de Seine-et-Marne de l'époque, etc., etc. Et cette implication se retrouve à travers autre chose, c'est que non seulement les jardiniers qui étaient des cheminots, mais qui étaient des jardiniers essentiellement à ce moment-là, les compagnies de chemin de fer participaient à l'organisation et surtout aux récompenses des expositions d'horticulture. Je n'ai pas fait le tour de la question, donc je ne peux pas parler de fourchette de date, mais j'ai des exemplaires de médailles qui étaient des médailles frappées et offertes par les compagnies de chemin de fer pour récompenser tel ou tel prix. Et Dieu sait que des concours d'horticulture, il y en avait pratiquement chaque mois dans toute la France.
Bien, merci pour cette intervention. Donc, nous allons faire une pause jusqu'à 11h30 et donc nous reprendrons effectivement avec Jardineau.